Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Notre thème de ce soir, c'est vivre en liberté, vivre une vie de liberté, la vie que le Seigneur nous propose, la vie pour laquelle il a accepté de payer le prix. Nous voyons, bien aimés, que la Bible nous dit aussi que ou bien l'arbre est bon et les fruits aussi sont bons, ou bien l'arbre est mauvais et les fruits aussi sont mauvais. Nous ne pouvons pas dire que le fruit est mauvais alors que nous confessons en même temps que l'arbre est bon. Nous ne pouvons pas dire non plus que l'arbre est mauvais et nous mangeons de ce fruit parce que nous trouvons qu'il est bon. Il y a une contradiction. Ce que l'arbre va produire va déterminer si l'arbre est bon ou pas. Dans tous les actes, dans toutes les actions que les hommes peuvent faire, le résultat témoignera est-ce que l'action, est-ce que l'acte était bon ou bien est-ce que l'acte était mauvais. Les conséquences de nos actions, les conséquences de nos paroles témoigneront d'elles-mêmes. Est-ce que la parole qui avait été prononcée, est-ce que l'esprit dans lequel la parole avait été prononcée, est-ce que c'était avec, comment dire, avec amour? Mais le résultat, les conséquences parleront d'eux-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que quelque chose est bon et que son résultat soit mauvais. Ou bien les deux sont bons, ou bien les deux sont mauvais. Et nous savons bien aimé que lorsque nous voyons aujourd'hui les conséquences que le tabac produit, personne ne peut dire que le tabac est bon. Personne ne peut dire que fumer fait du bien. Si même les païens aujourd'hui arrivent à écrire sur les paquets de cigarettes que fumer tue, alors à combien plus forte raison nous, les enfants de Dieu, les enfants de lumière, témoignerons-nous que le tabac est mauvais? Beaucoup boivent de l'alcool jusqu'à s'enivrer. Et nous voyons aujourd'hui qu'un grand nombre d'accidents sur nos routes sont dus à l'alcool, à l'excès d'alcool. Nous voyons qu'il y a énormément de femmes qui sont battues par leur mari, et bien souvent sous l'effet de l'alcool. Donc nous voyons à travers tous ces incidents, à travers toutes ces conséquences, que l'alcool est mauvais. Et ce qui est le plus dramatique, bien-aimé, c'est dans ce qu'il y a de mauvais, c'est là où l'homme va devenir esclave. L'homme ne veut pas être esclave de ce qui est bien. L'homme ne veut pas être esclave de l'amour. L'homme ne veut pas être esclave de la bonté. C'est tout un combat pour être esclave de quelque chose qui va produire la vie. Mais dans ce qui produit la mort, l'homme a cette facilité pour y entrer. L'homme a cette facilité pour en devenir esclave. Nous voyons le nombre de personnes qui sont esclaves du tabac. Nous voyons le nombre de personnes qui sont esclaves de la violence. Les prisons en France, bien aimés, sont surchargées. Il n'y a pas assez de place pour tous les prisonniers. Donc on prévoit de construire d'autres prisons. Parce qu'il y a tant de personnes qui sont esclaves de la violence et les conséquences, nous le voyons bien aimé, ça produira toujours la mort. Alors le Seigneur nous appelle à vivre en liberté. Lorsqu'on parle de liberté bien aimé, c'est-à-dire qu'on fait opposition à ce qui est esclave. Si nous parlons de liberté, c'est que l'esclavage existe. Or le constat que nous faisons aujourd'hui bien aimé, c'est de voir des enfants de Dieu qui ont reçu, entre guillemets, la vie du Seigneur, mais qui vivent encore comme des personnes esclaves. Et être esclave, bien-aimé, on l'a dit, ça produira la mort, ça produira quelque chose de mauvais. Alors, si ça produit quelque chose de mauvais, bien-aimé, nous comprenons pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a la mort. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi de personnes n'arrivent pas à louer Dieu. Combien de personnes n'arrivent pas à manifester l'amour? Tout simplement parce qu'ils sont encore esclaves de la vie passée. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous vivons une vie totalement libre en Jésus, alors ce que nous produirons aussi sera digne de Jésus. Mais si nous disons être libre et que finalement le fruit de ce que nous produisons est l'angoisse, est le doute, est l'orgueil, est la tristesse, est la paresse, bien aimé, c'est que notre vie n'est pas encore dans la liberté comme le Seigneur l'attend. Nous voyons bien aimé combien quelquefois il est difficile d'adorer le Seigneur. Combien quelquefois on se sent quelquefois poussé. Il faut pousser les gens pour adorer le Seigneur. Mais la vie de liberté, c'est la vie bien-aimée que le Saint-Esprit nous communique. Or, l'Esprit Saint a soif de faire la volonté de Dieu. L'Esprit Saint a soif de servir Dieu. Alors pourquoi n'arrivons-nous pas à servir? Pourquoi n'arrivons-nous pas à louer Dieu? Pourquoi n'arrivons-nous pas à prier? Si la liberté doit produire quelque chose, elle produira quelque chose de conforme à la parole de Dieu. Alors si nous ne produisons pas ce que la Bible attend de nous, si nous ne produisons pas ce que le Saint-Esprit est censé produire, bien aimé, c'est que nous ne sommes pas dans la liberté. Nous sommes dans l'esclavage. Nous ne vivons pas cette liberté pour laquelle le Seigneur a donné sa vie. Nous ne vivons pas cette liberté pour laquelle le Seigneur est venu vivre comme un homme sur la terre. Nous ne vivons pas cette liberté que le Seigneur nous propose. Mais nous vivons l'esclavage. Nous prenons un petit peu de la liberté du Seigneur. Mais nous prenons en partie l'esclavage dans lequel nous étions encore autrefois. Or, la Bible nous dit dans Galates 5 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimés, pour quelle liberté? C'est pour la liberté. Celle que Dieu nous propose, c'est la vie, la même vie que le Seigneur lui-même a manifestée. La Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ, c'est cet Esprit-là qui vit en nous. Et cet Esprit veut vivre une véritable vie de liberté. Alors pourquoi n'arrivons-nous pas à louer? Pourquoi nous ne sommes pas libres de dire non au péché? Pourquoi c'est tellement difficile d'avoir une seule vie? Nous manifestons une vie à l'église et à l'extérieur une autre vie. Nous manifestons un comportement devant les autorités et un autre comportement derrière les autorités. Nous manifestons un comportement avec les bien-aimés et à la maison, c'est encore un autre comportement. Bien-aimés, ne pas vivre la vie que Jésus nous propose, c'est synonyme, bien-aimé, d'être encore dans l'esclavage. Et l'esclavage mène à la mort. Nous ne pouvons pas hériter de la vie éternelle si nous sommes esclaves. L'esclave n'est pas libre. L'esclave ne fait pas ce qu'il veut. L'esclave ne peut pas décider. L'esclave ne peut pas s'orienter. Mais il doit être soumis à son maître. Or, si nous sommes esclaves de la tristesse, si nous sommes esclaves du mensonge, si nous sommes esclaves du doute, si nous sommes esclaves de la crainte, bien-aimés, comment pouvons-nous dire que Jésus-Christ est notre Seigneur? La Bible dit qu'on ne peut pas adorer de Dieu. Ou bien on va adorer un et on méprisera l'autre. Mais dans tous les cas, nous avons un choix à faire. Nous ne pouvons pas servir Dieu et servir la chair en même temps. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes libres en Jésus et en même temps être esclaves de l'argent, être esclaves de l'économie de ce pays, être esclaves du travail, être esclaves de sa famille. Il y a une contradiction. Ou bien nous sommes libres, ou bien nous sommes esclaves, mais nous ne pouvons pas être les deux en même temps. Cela est impossible. Nous prenons l'Épître aux Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Amen. Voilà, bien-aimés, un rappel que l'apôtre Paul nous fait. Un rappel de ce que nous étions autrefois. Mais il nous montre aussi finalement, ce que nous devons être aujourd'hui, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang de l'agneau. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, aucune somme, ni l'or ni l'argent ne pouvait acheter le sang de Christ. Mais Dieu a trouvé bon que ce sang coule pour nous donner la vie. Et la Bible dit que nous étions autrefois morts. La mort, c'est quoi, bien-aimé? La mort, ce n'est pas comme le monde le manifeste aujourd'hui. Nous sommes morts une fois que nous sommes à la morgue, une fois que nous sommes dans le tombeau. Lorsque le Seigneur avait demandé à Adam de marcher conformément à sa parole, d'obéir en l'empêchant de toucher à l'arbre, à manger du fruit. Bien-aimé, Adam a désobéi. Et pourtant, le Seigneur lui avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. Or, le constat que nous faisons à travers ce passage, bien-aimé, c'est que lorsque Adam a mangé de ce fruit, physiquement, il était encore debout, mais spirituellement, il était mort. La mort pour Dieu, ce n'est pas de courir, de marcher, de chanter. La mort pour Dieu, c'est de ne pas être en Jésus. Bien que nous puissions marcher, que nous puissions courir, que nous puissions faire tout ce que les païens font, mais si le Seigneur n'est pas en nous, Dieu nous regarde comme étant morts. La véritable vie selon Dieu, c'est une vie spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de biens, qui étaient en bonne santé, mais dont ils n'avaient plus le goût de vivre, parce que l'argent n'a pas pu résoudre leurs problèmes, parce que la drogue n'a pas pu leur apporter la satisfaction qu'ils recherchaient. Alors, puisque ils sont debout, mais qu'il n'y a plus de goût à vivre selon ce monde, alors à quoi ça sert de se tenir encore debout? Ils ont préféré se suicider. Ils ont préféré sauter la vie. Parce que dans tous les cas, pour eux, bien que vivant physiquement, ils étaient comme morts parce qu'ils n'avaient plus de goût à la vie. Les gens qui se suicident, c'est parce qu'ils se considèrent comme morts avant. Le suicide n'est que la conséquence de l'état intérieur dans lequel ils étaient. Ils étaient morts intérieurement. Donc en se suicidant, ils ne font que confirmer l'état dans lequel ils étaient d'une manière spirituelle. Pour Dieu, la mort, ce n'est pas être dans le tombeau. Pour Dieu, la mort, c'est d'être loin de lui. Tout homme qui est loin de Jésus, tout homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, est considéré comme mort. Et c'est dans cette mort dans laquelle nous étions bien-aimés. Bien qu'avec le réfrigérateur rempli, quelquefois il n'y avait pas d'appétit. Bien qu'ayant de quoi, en ayant de quoi dans notre compte en banque, la maladie nous gâchait la vie. Bien que nous avions les moyens selon le monde, mais la vie n'était pas. Le goût de vivre n'était pas. L'appétit pour manger n'était pas. L'envie d'aimer n'existait pas. Parce que le monde n'arrivait pas à nous satisfaire. Nous étions dans la mort. Et l'apôtre nous dit que désormais nous devons être vivants en Jésus. La vie, c'est quoi? La vie, c'est la manifestation, la libre manifestation de Dieu en nous. Malgré les tempêtes, malgré les crises économiques, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie. C'est ça la vie. Et cette vie-là, personne ne peut ravir. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ne craignez pas les armes, ne craignez pas le système de ce monde. Mais craignez plutôt celui qui a la capacité de faire même périr l'âme. Celui qui a la capacité de vous faire mourir spirituellement. C'est celui-là que vous devez craindre. Mais tout le reste n'a pas le pouvoir de vous ôter la vie. Nous étions dans cet état-là, mais Dieu nous propose cette vie-là. Cette vie que personne ne peut nous ravir. La paix que personne ne peut nous ravir. La capacité d'aimer, de bénir même ceux qui nous persécutent. C'est ça la vie. D'être libre lorsque nous voyons nos ennemis et d'être en paix, d'être dans la joie. Or, la mort, c'est que lorsque nous voyons ceux qui ne nous aiment pas, lorsque nous voyons les ennemis, nous sommes angoissés, nous sommes dérangés, nous voulons changer de pièce. Certains même ont quitté des églises à cause de cela, parce qu'ils ne supportent pas le frère ou la sœur. D'autres ont totalement changé de pays parce qu'ils ne supportaient pas son président. D'autres ont carrément changé de ville. D'autres ont carrément démissionné parce qu'ils ne supportaient pas son patron. Bien aimé, ça, ce n'est pas la vie. La vie, c'est quelle que soit la persécution, quel que soit le niveau de méchanceté que ton patron a, toi, tu es en paix parce que tu es en Jésus-Christ. Notre paix ne doit pas dépendre d'un homme. Notre bonheur ne doit pas dépendre d'un système. Notre joie ne doit pas dépendre de l'argent, mais entièrement du Seigneur. C'est ça la vie que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit, n'obéissez donc point aux convoitises de notre corps. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous étions autrefois sous l'emprise de la chair. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit que nous devons vivre, nous considérer comme étant vivants en Jésus-Christ et ne plus être esclaves des convoitises de la chair. Lorsque, bien-aimés, nous marchons comme esclaves, parce que nous avons besoin de posséder, parce que nous nous disons, même de manière inconsciente, certainement quand j'achèterai ma maison, je serai plus libre. Certainement quand j'aurai le CDI, je serai plus libre. Bien-aimés, c'est parce que nous sommes esclaves de la justice de ce pays, esclaves de la justice du monde. Nous sommes esclaves du système. Or, l'apôtre dit que nous devons être vivants en Jésus-Christ et ne plus obéir aux convoitises de la chair. La Bible dit que Dieu ne nous tente pas. L'ennemi peut tenter. Mais la Bible dit aussi que bien souvent, lorsque nous péchons, c'est parce que nous obéissons à la propre convoitise de notre chair. Ainsi, lorsque la tentation vient, elle enfante le péché. La tentation ne peut avoir qu'un effet si elle trouve la convoitise en nous. Or, la convoitise est synonyme d'esclavage. Certains pensent qu'en allant dans tel pays, ils seront heureux. Ils pensent que c'est dans tel pays que leurs problèmes seront résolus. Et nous voyons, bien-aimés, des personnes qui étaient dans des pays étrangers, qui ont immigré dans d'autres pays. Mais arrivés dans ces pays-là, ils sont encore plus malheureux que dans leur pays d'origine. Parce qu'ils sont esclaves du système. Et lorsqu'on est esclave du système, bien-aimés, on ne pourra rien produire de bon. Mais celui qui est esclave de la justice de Dieu, comme il est écrit dans Romains 6, 18, celui qui est esclave de Jésus, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, là où il se trouve, il sera en paix, il sera dans la joie. Parce que sa paix et sa joie ne dépendent pas du monde, mais sa paix et sa joie, son bonheur, dépend totalement de son Dieu. La Bible nous dit que nous ne devons pas obéir à la convoitise de la chair. Bien-aimés, si nous sommes dans la convoitise, dans une convoitise quelconque, c'est la démonstration que nous sommes encore esclaves. Lorsque nous sommes jaloux des autres, c'est la démonstration que nous sommes encore esclaves. Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions lui demander une voiture. Il n'est pas contre le fait que nous puissions lui demander un travail. Mais Dieu est contre le fait que nous puissions penser que par le travail nous serons heureux. Que dans une belle voiture, nous serons reconnus, nous serons heureux. Dieu est contre cela. La vraie source de bonheur, c'est lui. Et lorsque nous sommes dérangés parce que nous estimons qu'il nous manque quelque chose, c'est alors, bien aimé, que nous sommes encore esclaves. Lorsque nous avons prié et que Dieu n'a pas encore donné, nous commençons à murmurer. Nous commençons à nous rebeller en trouvant tous les autres mauvais. En trouvant tous les autres comme si Dieu les avait favorisés, en qualifiant la vie d'injuste, alors c'est que nous sommes encore esclaves. L'esclave vit en fonction de son maître. L'esclave dépend de son maître. L'esclave mange lorsque son maître lui donne à manger. Alors il vit, alors il se tient debout. L'esclave vit parce que son maître le décide. Une personne qui est esclave, si aujourd'hui son maître décide de le tuer, bien aimé, personne ne parlera, parce qu'il avait acheté. Alors lorsque nous sommes esclaves des choses de ce monde, bien aimé, Nous ne pouvons pas confesser que Jésus-Christ est notre Seigneur. N'obéissons pas à la convoitise parce que nous avons été libérés. Et l'apôtre dit que nous devons marcher comme étant vivants en Jésus-Christ. Celui qui est esclave de Dieu, toute sa vie dépendra de Dieu. Au verset 13, il dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Bien-aimés, la qualité d'esclave dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu sont encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils en ont fait le choix. L'apôtre Paul nous dit, offrez-vous à Dieu. Lorsque l'on s'offre à Dieu, bien-aimé, c'est un choix personnel. On fait le choix de se consacrer à Dieu. On fait le choix de croire en lui. On fait le choix d'espérer en lui. L'apôtre Paul nous dit, offrez-vous à Dieu vous-même. Dieu ne va pas kidnapper notre vie. Dieu ne va pas nous forcer à l'adorer. Et beaucoup aujourd'hui qui vivent une véritable vie de liberté, c'est parce qu'ils ont fait le choix de faire confiance à Dieu. Et nous entendons beaucoup quelquefois dans le milieu chrétien. Mais tel frère, Dieu l'a béni. Moi, je ne comprends pas comment lui arrive à être heureux. Comment il arrive à être en paix. Moi, je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je prie, mais je n'y arrive pas. Bien-aimé, la Bible dit que dans le Seigneur, il n'y a point de favoritisme. Dieu nous a tous aimés au même niveau qu'il a donné Jésus-Christ à la croix. Dieu ne fait de favoritisme avec personne. Il ne va pas permettre que un soit dans la paix et que l'autre soit dans le malheur gratuitement. Dieu nous a tous aimés d'un amour égal. Celui qui est véritablement libre, libre en Jésus, c'est parce qu'il a fait le choix de vivre cette liberté. Il a fait le choix de faire confiance au Seigneur. Il a fait le choix d'appliquer la parole de Dieu. Il a fait le choix de croire en la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors combien même lorsque le malheur vient, lui, il se comporte comme quelqu'un qui a déjà été délivré. Ça, c'est un choix. Combien même la nouvelle est mauvaise. Il se souvient qu'il est écrit, « Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. » L'enfant de Dieu ne craint point les mauvaises nouvelles parce qu'il a l'assurance que Dieu est avec lui. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, il n'est pas surpris car le Seigneur a déjà tout annoncé dans sa parole. Lorsque le malheur vient, il se comporte comme quelqu'un qui est heureux parce qu'il a choisi de faire confiance en son Dieu. Celui qui est esclave, c'est parce qu'il a fait le choix d'être esclave. Celui qui fume, bien-aimé, c'est parce qu'il a fait le choix de fumer. Celui qui boit de l'alcool et qui prend le volant après, c'est parce qu'il en a fait le choix. Je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Bien-aimé, c'est faux. On peut comprendre qu'un païen qui est possédé puisse dire que c'est trop fort pour moi. Mais un enfant de Dieu qui a reçu la vie de Dieu ne peut pas dire que c'est trop fort pour moi. Mais nous devons être honnêtes et confesser que non, j'ai choisi de pécher. J'ai cédé à la colère, j'ai obéi à la convoitise de ma chair. J'ai obéi à ma chair qui voulait s'énerver. J'ai obéi à ma chair qui voulait mentir. Mais ne rejetons pas la faute sur les autres. Car nous sommes libres aujourd'hui d'être esclaves, mais nous sommes aussi libres de vivre une véritable liberté en Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. C'est un choix, bien-aimé. Le Seigneur veut nous libérer. Le Seigneur veut nous rendre libres. Mais nous avons le choix d'accepter cette liberté. Comme nous avons le choix aussi de vivre comme des esclaves. Et les conséquences de l'esclavage, bien-aimé, c'est la mort. Alors lorsque nous produisons du fruit qui n'est pas digne de la repentance, bien-aimés, ne nous justifions pas en disant « Mais de toutes les manières, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît notre cœur, bien-aimés. Mais ce que Dieu a mis dans notre cœur se manifestera aussi physiquement. Si réellement le Saint-Esprit vit en nous, alors le fruit du Saint-Esprit se manifestera aussi. Beaucoup se mettent en colère. Beaucoup pêchent. Et lorsqu'on les reprend, de toutes les manières, c'est Dieu qui me juge. De toutes les manières, Dieu connaît mon cœur. Bien-aimé, c'est une réalité que Dieu connaît le cœur. Mais la manifestation du fruit de l'Esprit est une réalité. Tout comme les œuvres de la chair sont aussi une réalité. Lorsque nous péchons, bien-aimés, ne disons pas en nous justifiant que Dieu connaît mon cœur. Reconnaissons que nous avons péché. Et le fait que nous péchions, bien-aimés, est la démonstration que nous sommes encore esclaves de quelque chose. N'obéissons pas aux désirs de la chair, mais offrons-nous à Dieu. Faisons le choix de vivre comme des personnes qui ont reçu une véritable liberté en Jésus. Verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Pécherions-nous ? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas, je dirais, écrites d'une manière claire dans la parole de Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre que même si ce que je fais, ce n'est pas écrit que c'est interdit, mais l'intelligence me fait comprendre que ça ne va pas dans le sens de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous donne un minimum d'intelligence pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous. L'apôtre dit, « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ?» L'apôtre dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne deviendrai esclave de rien. » Bien-aimés, nous avons l'intelligence de comprendre que même s'il y a des choses, dans un premier abord, qui n'ont pas l'air si mauvaises, qui ne sont pas directement contredites par la parole de Dieu, ce n'est pas parce que je suis libre que je dois faire ce que je veux sans tenir compte de mon frère ou de ma sœur. De toutes les manières, c'est Dieu qui me juge. Mais l'apôtre nous dit même que si un aliment est une occasion de chute pour l'autre, alors abstiens-toi d'en manger. Ne cause pas la perte d'une personne pour laquelle Jésus-Christ est mort. Est-ce que parce que nous sommes libres, que nous allons décider de faire notre vie sans tenir compte des uns et des autres? Nous sommes un corps, et dans le corps, on doit tenir compte de chaque membre. Si nous sommes réellement un corps, nous devons bien aimer nous poser des questions lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous prenons des orientations. Est-ce que nous faisons ces choses-là dans un but égoïste? Ou est-ce que lorsque nous prenons ces décisions, nous tenons compte du frère qui vient de se convertir, qui ne comprendra peut-être pas notre comportement? Est-ce que nous faisons attention aux autres? Ou est-ce que nous vivons comme des électrons libres parce que nous sommes libres? La liberté en Jésus, bien-aimé, n'est pas la liberté telle que le monde le manifeste. Le monde manifeste une liberté où celui qui veut entrer dans un sex shop, il peut le faire sans tenir compte des autres parce que ça lui regarde lui-même. La liberté dans le monde fait qu'aujourd'hui que les jeunes n'ont plus de respect envers les aînés, envers les personnes âgées. Parce que l'obéissance, il ne la doit qu'à son père et à sa mère. Alors tous les autres, ce n'est pas son problème parce qu'il est libre. Nous montons dans le bus, nous voyons des personnes âgées debout et des jeunes qui sont tranquillement, non seulement assis, mais encore ils mettent les pieds sur l'autre siège. Parce qu'il est libre, il fait ce qu'il veut, sans tenir compte des autres. Mais l'apôtre nous dit que nous devons vivre comme étant vivants en Jésus-Christ. Et celui qui est vivant en Jésus-Christ doit faire attention dans ce qu'il fait, il doit faire attention aux autres. La vie de liberté que nous avons est une liberté afin de procurer la paix. La Bible dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Nous devons vivre pour rendre les gens qui nous entourent heureux. Chercher la petite bête pour distraire. Chercher la petite bête pour montrer que nous sommes les chefs, que nous contrôlons la situation sans tenir compte des autres. C'est la démonstration, bien-aimée, que nous sommes encore esclaves. Celui qui est libre n'aura pas honte de chercher le bien d'autrui. Celui qui est libre cherchera toujours, non pas à gagner sa cause, mais à vivre pour les autres. Mais celui qui est égoïste, celui qui est orgueilleux, celui qui veut toujours avoir raison, c'est la démonstration qu'il est encore esclave. Parce que l'orgueil, l'égoïsme, être fanfaron, bien-aimé, ne sont pas des fruits dignes de la repentance, ne sont pas des fruits de l'esprit. Mais tous ces éléments-là font partie des œuvres de la chair, à laquelle la Bible dit que nous ne devons pas obéir. Verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et la justice, bien-aimée, selon Dieu, c'est tout ce qui est conforme à sa parole. Nous étions autrefois esclaves, mais le Seigneur nous a affranchis. Et nous avons le choix de vivre une véritable vie de liberté. Ne vivons pas, bien-aimés, selon le système de ce monde. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est là où Dieu nous appelle, bien-aimés. Nous prenons Exode chapitre 14. À partir du verset 8, la Bible dit « Après que Pharaon ait accepté, malgré lui, de laisser partir le peuple de Dieu, la Bible nous dit au verset 8 « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir, servir les Égyptiens, que de mourir au désert. » Le peuple d'Israël était en captivité, était esclave des Égyptiens. Il faisait les travaux forcés. Il devait vivre conformément à la loi de Pharaon. Il devait obéir, il n'était pas libre d'adorer leur Dieu. Alors nous savons que le Seigneur va appeler Moïse pour sortir son peuple de l'Égypte. Et la Bible nous dit dans ce passage-là que Israël sortit de l'Égypte la main levée. Il sortit de l'Égypte sans avoir eu à combattre. Ils ont été libérés sans avoir eu à répliquer par les armes. Dieu a fait des exploits, Dieu a fait des miracles et des prodiges pour sortir son peuple. Et les voilà délivrés. Les voilà maintenant libres. Et en regardant en arrière, ils voient les Égyptiens, l'armée égyptienne. Ils étaient là devant la mer. Que faire? Ils ont commencé à murmurer. Moïse, qu'est-ce qu'on te disait lorsque nous étions en Égypte? Il fallait nous laisser là-bas. On ne voulait pas venir, on ne t'a pas demandé de nous amener là. Voilà où tu nous as menés. Pour mourir dans le désert. Le Seigneur venait de les libérer. Le Seigneur a vaincu, la main levée, les ennemis d'Israël. Israël, au lieu de vivre comme un véritable peuple libre, en regardant les Égyptiens, ils sont redevenus à l'état d'esclaves. Et nous sommes dans les mêmes configurations. Le Seigneur nous a sortis du monde. Il nous a libérés. Et lorsque nous sommes devant une situation qui nécessite que nous disions la vérité, mais lorsque c'est une situation qui nous paraît insurmontable, on préfère mentir. Parce qu'on craint encore toutes les choses dans lesquelles Dieu nous a libérés. Il nous a libérés du mensonge. Il nous a libérés de la crainte. Et une situation similaire à celle qu'on avait vécue autrefois dans le monde, on commence à trembler. Au lieu de se souvenir que nous sommes libres, au lieu de se souvenir que le mensonge, la situation dans laquelle on m'a emmené, dans laquelle on veut me pousser à mentir, Jésus-Christ l'a vaincu. J'ai été libéré du mensonge. On oublie que Dieu est grand, on oublie les exploits de Dieu. On oublie notre passé. Et on se soumet. Alors que nous avons été libérés, on vit comme étant encore esclaves. Le peuple d'Israël était libre de louer son Dieu. Était libre de faire confiance à son Dieu. Parce que Dieu avait manifesté des preuves. Il avait témoigné par tout ce qu'il avait fait aux Égyptiens, qu'il était digne de confiance. Il avait manifesté qu'il était au-dessus de tout. Il avait vaincu tous les dieux égyptiens. Mais le peuple d'Israël l'avait oublié. Et ils ont continué à vivre comme étant encore esclaves des Égyptiens. Moïse, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Je suis libre, Seigneur, je ne comprends pas. J'étais obligé de pécher parce que vraiment dans cette situation, j'étais obligé de mentir. Si je ne mentais pas, bon, je n'allais pas m'en sortir. J'ai été obligé de tricher parce que si je n'avais pas triché, la situation allait être compliquée. J'ai été obligé de rester dans l'impudicité parce que bon, après tout, ça fait des années qu'on est ensemble, mais je ne peux pas l'abandonner comme ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous ne devons plus obéir à la chair. Si réellement nous sommes libres, manifestons aussi une vie de liberté. Nous ne pouvons pas simplement confesser dans notre bouche que nous sommes libres et vivre comme des esclaves. Nous prêchons Christ. Et au moindre incident, ce sont des pleurs. Nous prêchons Christ. Et au moindre incident, ce sont les païens de notre famille qui viennent nous consoler. Nous avons des problèmes. Et ce sont les gens du monde qui viennent nous conseiller. Parce que nous confessons être libres, mais en réalité nous sommes encore esclaves. Israël était libre. Mais ils ont oublié ce que leur Dieu a fait. Vous savez, bien-aimés, il y a des personnes qui ont été amputés d'un membre. Un membre pour lequel ils avaient des douleurs. Et même lorsque le membre est amputé, ils ont toujours l'impression de sentir cette douleur-là. Psychologiquement, ils ont l'impression que la jambe, si c'est la jambe qui a été amputée, est toujours là. Parce qu'il a été habitué à vivre avec cette douleur. Et beaucoup de chrétiens ont oublié qu'ils étaient libres. Ont oublié qu'ils n'étaient pas obligés de céder à la pression des amis. Ont oublié qu'ils n'étaient pas obligés de se compromettre. Mentir pour donner raison à son mari. Mentir pour donner raison à sa femme. Ils ont oublié qu'ils étaient libres. Ça devient comme un réflexe. Vous voyez, bien aimé, quelquefois, lorsque on s'est fait une plaie ou bien qu'on a mal quelque part, on a mal aux pieds, la nuit, tout se passe bien. Mais quand on se réveille le matin, on oublie qu'on a mal aux pieds, on saute du lit, hop, et c'est là qu'on se sent, ah, j'avais mal. Beaucoup oublient, bien aimé, qu'ils sont libres. Et ça devient comme un réflexe. Il a accepté le Seigneur et comme il avait l'habitude de mentir, des fois c'est une situation qui ne demande même pas de mentir. Mais il a oublié qu'il était libre automatiquement, le mensonge sort facilement. Et c'est étonnant, bien aimé, de voir que même au milieu des chrétiens, il y en a qui mentent facilement, librement. Parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient libres. Et étant libres, ils doivent vivre cette vie de liberté. Exode chapitre 16. Verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Toujours dans les murmures, Israël continue d'oublier que Dieu les a libérés. Et bien aimé, vous savez, lorsque on est libre de quelque chose, ça sous-entend que la situation va devenir meilleure. Lorsqu'on est esclave, c'est une contrainte. Lorsqu'on est esclave, c'est une souffrance. Donc la liberté est synonyme de bonheur, est synonyme de paix et de joie. Et ce peuple-là avait oublié combien ils étaient dans les difficultés, ils avaient oublié qu'ils étaient esclaves. En Égypte, là-bas, il y avait des pots de viande. On pouvait manger jusqu'à être rassasié. C'était mieux que l'on meure là-bas. Voilà, Moïse, tu es venu nous faire mourir de faim dans le désert. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Bien-aimés, c'est la même chose. Lorsque nous venons dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a libérés, mais nous avons l'impression que notre vie d'esclave était meilleure. Si nous retournons dans le péché, bien-aimé, c'est parce que nous estimons que c'était meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais si réellement nous réalisons que nous étions esclaves, bien-aimé, on n'aura pas envie de retourner en arrière. On n'aura pas envie de retourner dans le péché. Parce que nous avons réalisé que nous étions esclaves et que désormais nous sommes libres. C'est quel esclave bien-aimé qui est condamné aux travaux forcés qui va vouloir y retourner alors qu'on lui ouvre les portes? Ou bien c'est qu'il est fou? Mais je ne crois pas qu'un enfant de Dieu puisse être fou. Si nous retournons en arrière, bien-aimé, c'est que nous avons jugé que finalement c'est là qui était meilleur. Alors là, bien-aimé, même le monde dira que c'est le monde à l'envers. Comment un esclave peut-il se réjouir de son état d'esclavage? Nous voyons les conséquences de l'esclavage. Beaucoup de gens cherchent à arrêter de fumer. Mais si fumer c'est bien, pourquoi ils cherchent à en sortir? Beaucoup de gens sont esclaves de l'alcool. Ils font des cures de désintoxication. Mais si l'alcool est bon, pourquoi chercher à s'en sortir? Israël avait oublié qu'il était esclave. Il a réclamé ce qu'il avait dans sa qualité d'esclave. Bien-aimés, nous n'avons rien à envier au monde. Tout ce dont le Seigneur nous a libérés, bien-aimés, considérant que c'était mauvais et que ça produirait la mort. Combien même nous n'avons pas été au point de devenir alcooliques? Combien même nous ne sommes pas tombés dans les profondeurs de la drogue? Mais si le Seigneur nous a sortis de ce milieu, c'est que certainement c'était mauvais. Mais ça reste un choix de faire confiance au Seigneur et de comprendre que la véritable vie, c'est celle qu'il nous propose aujourd'hui. Israël se réjouissait plus de son état d'esclave que de son état en tant que peuple libre. Bien-aimés, nous voyons dans le monde, il y a des enfants, des personnes qui ont été enlevées. Une personne qui produit un enlèvement est passible d'être condamnée en prison. Alors si on condamne une personne qui commet un enlèvement, c'est que le monde a jugé que l'enlèvement est mauvais. L'enlèvement n'est pas logique. L'enlèvement cause le malheur des familles. L'enlèvement cause des angoisses dans les familles. Enlever un enfant de 9 ans, de 10 ans, des familles sont dans les angoisses, dans les tourments. Parce que c'est dur de vivre cette situation-là. Mais nous avons vu dans beaucoup de cas, bien que ce soit une situation difficile à vivre, quelquefois ces enfants-là, quand ils grandissent, finissent par être amoureux de leur ravisseur. Ils finissent par aimer les gens qui leur ont fait du mal. Quelle contradiction! Et le monde appelle ça le syndrome de Stockholm. À force d'être habitué avec cette personne-là mauvaise, on finit par l'aimer. Bien-aimé, je nous mets en garde. À force de côtoyer le péché, on finira par l'aimer, bien-aimé. Ce qui est mauvais, ce qui produit la mort, on finira par l'aimer. On finira par s'y plaire. Ce qui est totalement illogique. C'est pourquoi on dit que c'est un syndrome. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Logiquement, concrètement, ce n'est pas normal. Une personne qui t'a ravi, qui a fait du mal à tes parents, tu finis par tomber amoureux, même quelquefois avoir une relation totalement maritale. Alors que la porte est ouverte, la personne fait même le choix de d'y vivre. Et lorsque nous côtoyons bien-aimés le péché, nous finirons par en devenir esclaves. Nous finirons par aimer ce péché-là. L'apôtre Paul nous conseille de vivre comme étant vivant en Jésus-Christ, de ne plus obéir aux désirs de la chair qui produisent la mort. Nous sommes véritablement libres, bien-aimés. Nous ne devons plus vivre pour servir le monde, mais nous devons vivre en fonction de la parole de Dieu. Nous ne sommes plus obligés de mentir. Nous ne sommes plus obligés de tricher. Nous ne sommes plus obligés de faire semblant devant les hommes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et cette liberté-là, nous devons la manifester. La véritable liberté, bien-aimée, c'est celle qui consiste à laisser le Saint-Esprit régner en nous. celle qui consiste à laisser le Saint-Esprit vivre librement en nous. C'est ça la véritable liberté. Si tu as envie de crier que Jésus-Christ est vivant, que tu sois libre de le faire. Tu as envie de chanter pour le Seigneur, que tu sois libre de le faire. Que tu aies envie de danser pour le Seigneur, que tu sois libre de le faire. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Je discutais avec un frère hier au téléphone qui me dit « Ah ben, je voulais passer te voir. Mais comme j'ai vu la pluie tomber, j'ai eu peur. Parce que si je déplace la voiture, ici les places de parking sont rares. Je lui dis donc, tu as eu peur de la pluie, c'est pour ça que tu n'es pas venu me voir. » Bien-aimés, nous devons être comme vivants dans le Seigneur. Si l'Esprit Saint veut s'exprimer en te poussant à aller visiter un frère, ce n'est pas à cause de la pluie ou à cause de quoi que ce soit, bien-aimé, que tu vas freiner l'action du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sentent que je dois aller à la réunion. Mais il commence à se raisonner lui-même. Mais je suis fatigué ou bien il faut que je fasse ceci. On cherche des raisons. Mais le simple fait qu'on soit dérangé, c'est la démonstration qu'il y a un désaccord entre la volonté de l'Esprit et les excuses que nous donnons. Si nous décidons de rester à la maison, on doit le décider avec conviction et en étant en paix. Mais si on le décide et qu'on est dérangé, qu'on est angoissé, bien-aimé, c'est la démonstration que nous sommes encore esclaves. La vie avec le Seigneur, c'est une vie de liberté. Je veux m'absenter pour telle ou telle raison, mais le pasteur, certainement, il parlera, certainement, il dira ceci ou il dira cela. Bien-aimé, ça, c'est l'esclavage, ce n'est pas la liberté. Et quand on est esclave, bien-aimé, on peut tomber facilement dans l'idolâtrie. Or, le Seigneur condamne l'idolâtrie. La gloire appartient à Jésus-Christ seul. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a franchis. Bien-aimés, nous sommes libres dès l'instant où nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur dans notre vie. Que le monde ne nous fasse pas croire que nous sommes encore esclaves. Être tenté, bien-aimé, ça ne veut pas dire qu'on est esclave. La tentation, l'ennemi peut l'envoyer. Mais le fait de dire non lorsqu'elle viendra, c'est la démonstration que nous sommes libres. Parce que nous ne sommes pas obligés d'obéir à cette voix. Vivons cette liberté pleinement, bien-aimés, afin que notre vie, comme le Seigneur le dit dans Jean chapitre 10, que ça soit une vie abondante, une vie sans containte, une vie libre, que personne ne nous empêche de louer Dieu, que personne ne nous empêche de servir Dieu, que rien de ce monde, bien-aimés, ne nous empêche d'espérer en Dieu. Nous sommes véritablement libres. Que personne ne nous fasse croire le contraire. Vivons cette vie que le Seigneur nous propose. Mais comme je l'ai dit, bien-aimé, et je clôture par cela, en nous rappelant que c'est un choix. Tu as le choix aujourd'hui de vivre comme un esclave. Mais tu as aussi le choix de vivre comme une personne libérée à cause du sang de l'agneau. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur de gloire, désormais vivre cette réalité, que nous avons été libérés. Nous ne sommes plus redevables de la chair. Nous ne sommes plus redevables du monde. Nous ne sommes plus redevables de Satan et de ses démons. Seigneur, réellement, tu nous as libérés. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Seigneur Dieu de gloire, c'est en toi seul que nous voulons espérer. C'est en toi seul que nous voulons vivre, non plus comme étant mort, mais comme étant vivant, parce que tu nous as redonné la vie. Nous avons été libérés de l'état dans lequel Adam avait fait entrer l'humanité. à cause du sang de l'agneau, nous pouvons aujourd'hui confesser que tu es le roi des rois. Nous pouvons confesser que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous pouvons confesser, Seigneur de gloire, que ni les anges, que ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne pourront nous séparer de ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes libres de confesser, Seigneur de gloire, que si toi tu es pour nous, personne ne peut être contre nous. Nous sommes libres de confesser que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes, que désormais le prince des ténèbres n'a plus aucune autorité sur nos vies. Au nom de Jésus, nous pouvons confesser que tu es notre Seigneur, que tu es notre roi, parce que c'est toi que nous avons choisi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette liberté que tu nous as donnée gratuitement, sans rien attendre en retour. Et nous voulons le démontrer par nos vies. Nous voulons le démontrer par notre témoignage. Nous voulons le démontrer par notre prédication. Nous voulons le démontrer par la foi. Dans le nom de Jésus. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Désormais, Seigneur Dieu de gloire, véritablement, nous sommes vivants en toi. Car malgré la crise économique, nous sommes dans la paix. Malgré la maladie, Seigneur, nous sommes dans l'assurance. Malgré les souffrances présentes, nous sommes dans l'espérance, Seigneur, de la gloire à venir. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Seigneur, qui puisse délivrer. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi qui puisse donner la vie comme tu nous l'as donné, Seigneur. Nous voulons le proclamer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Car c'est une réalité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, nous voulons le chanter avec assurance et conviction qu'il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Hallelujah.